Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George. I might leave out number letter F, you know? That might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Intégrale Miles Davis, une intégrale au cours de laquelle nous allons parcourir l'histoire de Miles, de ses enregistrements, un peu de sa vie. Tout ceci durant l'année 1951. Alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, Miles, à cette époque-là, n'est pas au mieux de sa condition physique. Hein. Il est, oui, sous l'emprise de la drogue et par conséquent, c'est très inégal au point de vue de la qualité de ses prestations. On va donc le retrouver, comme je vous l'avais indiqué, pour une particularité dans sa carrière. Et bien, cette fois-ci, on ne va pas le découvrir non seulement à la trompette. Non, non, cette fois-ci, il sera au piano. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que lors de la session d'enregistrement avec Sonny Rollins, John Lewis... donc qui était le pianiste attitré, eh bien, trouve que la qualité de l'enregistrement et la qualité de la prestation est tellement mauvaise qu'il va carrément quitter le studio. Mais Miles avait promis à Sonny Rollins qu'il allait faire tout son possible et intervenir auprès de Bob Weinstock, le patron du label, pour qu'on fasse une petite fleur à Sonny Rollins. Alors Bob Weinstock dit ben, « pourquoi pas, mais big problème, hein, on n'a pas de pianiste ». Et Miles, toujours aussi fier de lui, va se retourner, il va dire « mais moi, je sais jouer du piano ». Et par conséquent, on va se retrouver cette fois-ci en quartet, avec donc Sonny Rollins au ténor, Miles Davis sera donc au piano, il y aura Perseus à la basse et Roy Haynes à la batterie, pour un seul thème, « Je sais, I know ». Sonny Rollins Quartet, donc, avec Miles au piano. Alors certes, c'est pas du grand piano, c'est pas le lyrisme de Tommy Flanagan, c'est pas non plus les capacités rythmiques de Monk, mais voilà, c'est Miles Davis, dans une originalité qu'il avait faite pour faire plaisir à son pote du moment, Sonny Rollins. Alors, je vous avais dit qu'il avait fait de ce jour également un marathon, Miles Davis. Il avait souhaité donc faire deux enregistrements. Un, il va le faire sous l'égide de Charlie Parker. On en a déjà écouté de longs extraits. Et puis donc, cette partie qui lui est personnelle, avec cette fois-ci Sonny Rollins. On va retrouver donc la prestation qu'il va organiser ce 17 janvier. Mais c'est Charlie Parker qui est le leader du quintet. Il y aura donc Miles à la trompette, Charlie Parker à l'alto, Walter Bishop Jr. au piano, Teddy Kotick sera à la basse et Max Roach à la batterie pour ce thème Star Eyes. Miles Davis, donc avec le Charlie Parker Quintet, pour ce Star Eyes, et comme vous le constatez, eh bien Miles n'est vraiment pas au mieux de sa forme, on aurait tendance à penser qu'il s'en rend compte. C'est la raison pour laquelle il se tient carrément assez éloigné du micro, de manière à ce que les fausses notes, s'il peut en commettre, eh bien ne soient pas vraiment mis en avant par rapport au talent de Charlie Parker, bien sûr. Alors il faut dire qu'à cette époque-là, eh bien, les musiciens sont un peu dans la panade, parce que les clubs de la 52e ont pratiquement tous fermé, remplacés, comme je vous l'ai dit, par des boîtes de striptease, et il est difficile de trouver du boulot. À tel point que même Charlie Parker en est réduit à se produire dans des hôtels. C'est ainsi que deux jours plus tard, eh bien, on va retrouver Charlie Parker avec Miles à partir d'un hôtel, le Diplomate Hotel de New York. Alors l'enregistrement, effectivement, d'une est toujours pareil, d'une qualité assez médiocre, faut-il le rappeler. Mais malgré tout, ce sont des documents qui font partie de l'intégrale, raison pour laquelle, eh bien, il faut accepter de les recevoir tels qu'ils sont à partir de disques pirates, effectivement, ce qui ne permet pas d'avoir la qualité hi-fi qu'on pourrait espérer. On va donc commencer par deux thèmes qu'on va enchaîner, parce que le premier, c'est April in Paris. C'est une version très courte et tronquée d'ailleurs. Elle sera suivie par le thème Billy's Bounce. Faut-il rappeler que Parker l'avait déjà créé et enregistré avec Miles le 26 novembre 1945. Donc les deux thèmes enchaînés, April in Paris et Billy's Bounce. Thank you. en direct donc, dans l'hôtel Diplomate à New York. C'était Charlie Parker Quintet avec Miles Davis, bien sûr, pour deux thèmes enchaînés. Le premier, c'était April in Paris, vraiment en version très très courte et enregistrée, je pense, par un fanatique de Charlie Parker et pas de Miles Davis. Et puis la deuxième version, c'était donc le thème Billy's Bounce. On va devoir donc enregistrer énormément cette session live et par conséquent, les musiciens vont se faire plaisir en reprenant des thèmes qui ne sont pas forcément des thèmes bop, qui ont été créés par des musiciens qui n'étaient pas dans l'idiome bop. Ce sera le cas de ce Caravan, une, je rappelle, composition donc de Juan Tillol, magnifiée bien des fois par Duke Ellington. Le Charlie Parker Quintet avec ce Caravan. Voilà donc un extrait de cette session d'enregistrement effectuée à partir donc, d'un hôtel à New York avec Charlie Parker Quintet. Et comme dans toute session, eh bien, on est bien obligé de revenir aux fondamentaux, au blues. C'est ce que va faire donc Charlie Parker qui va donc désirer absolument jouer, non, sachant pas qu'il est vraiment enregistré, je ne le pense pas, avec le thème qu'il avait créé donc, en 1947. Mais cette fois-ci, c'était Errol Garner qui était au piano. C'est le thème Cool Blues, et là je pense que c'est Al Haig qui est au piano. Donc Cool Blues par le Charlie Parker Quintet. Thank you. Cool Blues, donc par Charlie Parker Quintet, en date donc du 19 janvier 1951. Bon, on va donc poursuivre cette session de diffusion et d'enregistrement avec un thème de Charlie Parker, toujours, qu'il avait mis au goût du jour dès 1947, le 17 décembre, pour le fabuleux label Dial, et c'était donc le thème « Drifting on a Reed ».
Thank you.
Drifting on a Reed, donc par le Charlie Parker Quintet. On va donc terminer cette séance et peut-être vous ai-je dit, et je tente de vous épargner vos délicates oreilles, mais l'intégrale, c'est l'intégrale, et on va terminer avec le thème qui est devenu un peu presque thème d'introduction et de finale des principales sessions d'enregistrement de Charlie Parker. C'est bien sûr Ornithologie. Alors faut-il rappeler que Parker et Miles l'avaient créé dès 1946 au mois de février. Ici, on est donc cette fois-ci, non pas en 1946, mais tout simplement, on est en janvier 1951. Et c'est donc à nouveau Charlie Parker, Miles Davis pour ce légendaire Ornithologie. Ornithologie, donc par le Charlie Parker, Miles Davis Quintet. Alors, à cette époque-là, Miles est, on vous dit, dans une période vraiment trouble due à ses excès, mais malgré ce, eh bien, il va être désigné comme le trompettiste de l'année par la revue Métronome, qui va décider de renouveler son opération et créer donc The Métronome All-Stars. Alors, la conception du groupe est totalement différente du précédent Métronome qu'on avait écouté. Cette fois-ci, il y aura donc Miles à la trompette, il y aura Kay Winding trombone, John Laporta sera à la clarinette, Lee Konitz sera à l'alto, Stan Getz sera au ténor, Serge Chaloff au baryton, Terry Gibbs au vibraphone, George Shearing piano, Billy Boyer à la guitare, Eddie Safranchi à la basse et Max Roach batterie. On est donc le 23 janvier 1951. Et on va reprendre une composition et un arrangement qui avait été fait par Ralph Burns. Il avait signé ceci d'ailleurs avec le même temps que le tube Early Autumn avec Woody Herman. En fait, c'est un arrangement qui est calqué sur les arrangements du Nonet et qui va mélanger adroitement, on va dire, des parties jouées en ensemble avec tous les cuivres, mais de courts solos de 8, 12 et parfois quand même 16 mesures. Le thème, ce sera donc Early Spring. Thank you. Sur un arrangement de Ralph Burns tout à fait classique par rapport à ce qu'aurait pu en faire un Gil Evans, mais il faut dire que Miles Davis, là, n'est pas le leader. Ils sont tous plus ou moins leaders, entre parenthèses, puisque c'est le Metronome All-Star qui a été concocté donc, par la revue Metronome. Ça se passe donc le 23 janvier 1951. On va poursuivre donc cette séance avec un deuxième titre, il n'y en aura que deux enregistrés. Ce sera donc évidemment un blues, il aura pour titre... Le local 802 Blues, il va reprendre en fait ce que faisait le pianiste George Shearing à l'époque avec le vibraphoniste donc Terry Gibbs. Alors la richesse du morceau viendra surtout du fait que dans cet arrangement, on constatera que les solos ne sont pas dus à un mais deux musiciens et notamment celui qui mettra donc en présence Kay Winding et Max Roach. L'atmosphère expérimentale venant d'utilisation d'impro simultanée mais cher donc à un autre pianiste dont on parlera un peu plus tard, c'est bien sûr Lenny Tristano. Ici, le pianiste, c'est donc George Shearing. On peut croire que c'est lui qui a composé le thème « Local 802 Blues ». Par le Metronome All-Star, donc c'était Local 802 Blues, avec bien sûr Miles, plus toute une cohorte, Kay Winding, Max Roach et d'autres, et notamment Billy Bauer, le pianiste George Shearing, vibraphone Terry Gibbs. Alors en 1951, Miles va retourner au Birdland avec une nouvelle formation. Cette fois-ci, il va embaucher un de ses jeunes protégés, on va dire, Jackie McLean, qui est en traînée de progrès. Certes, mais le fait de se savoir aux côtés de Miles, alors que dans l'assistance, il avait reconnu Dexter Gordon, va le rendre malade, ça va l'obliger à aller aux toilettes, il va y rester un bon moment, à tel point qu'on se demandait bien ce qu'il faisait, et c'est la raison pour laquelle eh bien, on n'aura pas de témoignage de cet enregistrement, parce que eh bien, personne n'a voulu enregistrer le groupe sans la présence donc, de Jackie McLean. Au mois de mars, donc en 1951, Miles va retrouver les studios, cette fois-ci pour enregistrer une nouvelle fois pour Prestige, mais il ne sera pas le leader. En fait, il sera un sideman. On va dire que le leader sur la pochette de l'album, c'est Lykonitz, mais en réalité, ce n'est pas Lykonitz. Le leader du groupe, c'est George Russell, l'arrangeur, parce qu'il va apporter sa touche personnelle à tous les enregistrements, à tous les arrangements, et notamment sur un thème esthétique, c'est le titre du thème, qui a été en fait enregistré en hommage à un boxeur. Et le thème sera pris d'un tempo relativement rapide. Et l'histoire raconte, bon, je n'étais pas là évidemment, que Miles, quand il a commencé à se rendre compte que le tempo allait être trop rapide pour lui, eh bien, il aurait quitté la salle. Mais effectivement, c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas quand même le tempérament de Miles de s'éclipser. Alors peut-être qu'on a ralenti un peu le tempo, on ne saura jamais. Donc esthétique. Cette fois-ci, et c'est par le Miles Davis, donc Birdland All-Star carrément, hein, avec notamment Don George Russell, arrangeur. esthétique donc par le Lykonis Sextet. En effet, c'est Lykonis qui est donc le leader. Il est bien entendu ici à l'alto. Miles sera à la trompette sur l'insistance donc de Max Roach qui lui a souhaité que Miles soit présent et qui fera l'effort cette fois-ci, vous l'avez peut-être constaté, de ne pas jouer fort sur sa caisse claire et ses tomes, mais de tout interpréter au ballet. Et puis il y aura également Sal Mosca au piano, Billy Bauer sera à la guitare, Arnold Fiskin à la basse. Voilà la composition du sextet du 8 mars 1951. Alors, ça avait été fait en hommage donc au boxeur Ezard Charles, qui était le boxeur favori de Miles Davis, et donc voilà la raison de ce esthétique. Autre thème qui, lui, sera composé, cette fois-ci, en voulant faire hommage à une artiste peintre, Juanita Odjenar, qui n'est autre que la femme donc de George Russell. Ce sera donc le thème Odjenar par le Lykonis Sextet. Odjenar, donc, par le Lykonis Sextet, arrangement de George Russell. Alors, on peut dire que ce que l'on veut, mais George Russell, dont le vœu pieux est de mettre la musique classique et le jazz liés ensemble, eh bien, va se hisser avec ses enregistrements pratiquement au niveau de Gil Evans, parmi les grands arrangeurs de l'histoire du jazz. On va poursuivre l'enregistrement avec le thème Yesterday's, et cette fois-ci, ce sera Miles qui va créer l'introduction, alors que Lykonis, lui, va reprendre la mélodie juste après Yesterday, donc par Lykonis Sextet. Thank you. Yesterday's, donc par le Lykonis Sextet. Et puis on va donc terminer cette séance. Il fallait bien que Lykonis, qui est donc le leader du groupe, s'apparente à également à une forme de composition. C'est la raison pour laquelle on va lui attribuer le thème Ibek. Mais en fait, si vous écoutez bien, ce ne seront que des enregistrements faits, enfin tout au moins pour la compo que a voulu signer donc Lykonis, ce n'est en fait que une impro maîtrisée sur le thème Pennies from Heaven. Ibek donc par le Lykonis Sextet, donc terminer cette séance d'enregistrement, donc pour Prestige. Et puis, eh bien, au mois de juin même, on va dire, Miles va reconstituer donc à nouveau son groupe et il va reprendre en fait les engagements au Birdland. Ça va se faire donc effectivement à partir du mois de juin, c'est tout au moins ce que l'on dit parce qu'on ne sait plus très bien si c'est mai ou juin, peu importe. Toujours est-il que le 2 septembre, le groupe va bénéficier d'une retransmission, donc une nouvelle fois en direct à la radio. Et le groupe est composé cette fois-ci donc, des habitués, hein, de Miles, bien sûr, à la trompette. Gigi Johnson sera au trombone, Sonny Rollins sera au ténor, Kenny Drew, piano, Tommy Potter à la basse, Art Blakey à la batterie. Et le groupe va tenter de reproduire un peu ce que voudrait faire Miles, un peu la sonorité qu'il avait avec le Nonet. On va donc écouter une première version du thème Alf Nelson, parce qu'ici on retrouve vraiment la patte de Miles Davis sur ce qu'il aimait enregistrer à cette époque-là. C'est ainsi qu'on va donc clore l'émission d'ailleurs, parce que le morceau est assez long, il dure pratiquement 7 minutes. Bye bye.